La Bible dit que Dieu est rempli de bienveillance. Dieu est rempli de bienveillance. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le croire, ça, aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche de le croire aujourd'hui? Peut-être que vous commencez juste à vous intéresser à Dieu, hein, je ne sais pas. Et peut-être, du coup, que la question de l'identité et des attributs de Dieu, eh ben, c'est encore une question qui est un peu floue pour vous. Du coup, vous n'avez jamais vraiment réfléchi à la question de la bienveillance de Dieu. Est-ce que Dieu est rempli de bienveillance? Ben, je sais pas, je me suis jamais posé la question. Ou peut-être que cette question vous tracasse au contraire parce que vous êtes en train d'apprendre à connaître Dieu et vous avez du mal à concilier le fait qu'il soit à la fois rempli de bienveillance et en même temps, vous avez du mal à concilier ça avec toute l'injustice et la souffrance que vous constatez autour de vous dans le monde. Ou bien peut-être que vous êtes un croyant de longue date. Vous avez une grande expérience dans la foi, vous marchez avec le Seigneur depuis de nombreuses années, mais voilà que depuis quelque temps, votre vie traverse des circonstances particulièrement difficiles. Et tout en reconnaissant que Dieu est bienveillant théoriquement, parce que ça vous le savez depuis longtemps, eh bien en même temps vous avez du mal à le voir cela, à le voir concrètement et à le croire pratiquement. Vous le croyez théoriquement. Vous avez du mal à le croire pratiquement. Ou encore, peut-être que ce qui vous empêche de croire que Dieu est rempli de bienveillance, c'est tout simplement parce que vous avez une conception erronée, déformée de qui est Dieu. Une conception qui est peut-être le fruit de votre éducation, ou peut-être le fruit de certains préjugés, ou peut-être encore le fruit d'une amertume que vous avez dans le cœur pour des raisons que vous connaissez, que vous seul connaissez peut-être, une amertume que vous avez dans le cœur et qui est dirigée contre Dieu. Et par conséquent, vous avez du mal à croire que Dieu soit vraiment rempli de bienveillance. Bref, il y a toutes sortes de raisons, en fait, hein. Je n'ai pas été exhaustif ici, hein. Toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut être amené à douter de la bienveillance de Dieu, ou du moins douter de l'efficacité de sa bienveillance, c'est-à-dire du fait que Dieu agisse réellement, concrètement, pratiquement, selon sa bienveillance. Et c'est en fait le problème qui est au cœur du passage qu'on va lire aujourd'hui. Et la dernière fois, il y a 2 semaines, donc, quand on a étudié le premier chapitre du livre de Ruth, on a vu que l'auteur faisait contempler à ses lecteurs, et à nous, bien sûr, par la même occasion, on fait partie des lecteurs, il nous faisait contempler le caractère parfois inattendu de la providence de Dieu. Parfois, elle est inattendue. Il nous a parlé de la façon dont Noémie a traversé des choses très difficiles dans sa vie. Et il nous a raconté, l'auteur, que Noémie était sortie de cette expérience amère. Elle en est sortie amère. Malgré le fait que Dieu lui ait donné Ruth, sa belle-fille, comme gage de son amour pour elle et de la fiabilité de ses promesses. Donc Dieu a donné Ruth à Noémie comme gage de son amour. Mais Ruth est quand même sortie de cette expérience difficile avec de l'amertume dans le cœur. Et donc l'auteur a voulu nous inciter à réfléchir et à arrêter de douter de la compétence de Dieu. Vous vous souvenez? Enfin, si vous étiez là, ou peut-être que vous avez eu l'occasion d'écouter ça sur Internet. Mais voilà, après nous avoir parlé au premier chapitre de l'amertume de Noémie, l'auteur va nous parler maintenant au deuxième chapitre de la faveur de Boaz. Boaz, c'est le nom d'un gars, c'est le nom d'un nouveau personnage qui va apparaître dans l'histoire, et sa faveur envers Ruth va complètement transformer la vie de Noémie. Et à travers cet épisode, Dieu veut nous adresser un message à nous aussi aujourd'hui, à nous qui doutons que Dieu soit réellement bienveillant, à nous qui doutons du moins que sa bienveillance ait des effets concrets, pratiques, visibles dans notre vie et dans le monde. Et le message que Dieu nous adresse ce soir, que Dieu va nous adresser ce soir, c'est le suivant. Si tu regardes au bon endroit, tu pourras constater par toi-même les effets suprêmes de ma bienveillance. C'est Dieu qui nous dit ça ce soir. Si tu regardes au bon endroit, tu pourras constater par toi-même les effets suprêmes de ma bienveillance. Et pour nous faire comprendre ce message, l'auteur va nous faire admirer 3 choses successivement, vous allez le voir dans la lecture, 3 choses successivement qu'on va pouvoir admirer. D'abord, les mérites de Ruth. Deuxièmement, la générosité de Boaz. Troisièmement, le réveil de Noémie. Alors, sans plus tarder, on va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Ruth, chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari, C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous !» Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse !» Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, répondit, « C'est une jeune femme moabite, qui est revenue avec Naomi, du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolée, et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproches. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle battit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. » « Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, « Reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère.
Merci, Denis. On va prier.
Seigneur, s'il te plaît, applique ta parole à notre cœur et à notre vie par la puissance de ton esprit. Et au nom de Jésus, pour sa gloire. Amen. La première chose que l'auteur veut nous faire comprendre ici, hein, versets 1 à 7, c'est que la bienveillance de Dieu est si efficace qu'elle peut conquérir le cœur de n'importe qui. La bienveillance de Dieu est si efficace qu'elle peut conquérir le cœur de n'importe qui. Alors, au début de ce passage, on vient de l'entendre, l'auteur nous raconte la façon dont Ruth se met au travail pour trouver de la nourriture pour elle-même et pour sa belle-mère Noémie. Et la loi d'Israël à l'époque prévoyait que les pauvres puissent ramasser les épis qui restaient dans les champs après le passage des moissonneurs. D'accord? Et donc, c'est ce que fait Ruth. Elle attend que les moissonneurs passent dans les champs, elle passe après eux, et les épis qui restent par terre, elle les ramasse. La loi prévoyait que cela soit possible pour les pauvres qui n'avaient pas de quoi se nourrir. Et l'auteur nous fait remarquer alors que par la providence de Dieu, il se trouve, par bonheur dans la traduction de Denis, il se trouve que le champ où elle se met à glaner, eh bien c'est pas le champ de n'importe qui, mais elle ne le savait pas Ruth, mais il se trouve que c'est le champ de Boaz, ou Boaz, ça dépend de vos traductions, membre de la famille d'Elimelec, et Elimelec c'était qui, sinon le mari défunt de Noémie. Boaz se renseigne, donc il arrive, il vient rendre visite à ses moissonneurs pour surveiller un petit peu le travail dans son champ, et puis il arrive, et puis il se renseigne au sujet de cette jeune femme, et il apprend non seulement que cette jeune femme, Ruth, fait partie de sa famille, mais il apprend aussi que Ruth, c'est une jeune femme qui travaille dur. Elle travaille de bon cœur depuis le matin jusqu'à l'heure de l'après-midi. Elle travaillait dur, elle s'est arrêtée qu'une seule fois pour se reposer dans la maison. Elle travaille dur au profit de sa belle-mère pour lui ramener de la nourriture. Là, l'auteur est en train de nous faire admirer, ce que je disais tout à l'heure, les mérites de Ruth. Petite allitération là pour votre plaisir. Les mérites de Ruth. Elle est parfaitement exemplaire dans ce passage, dans les versets 1 à 7, cette jeune femme. Elle est veuve, éloignée de son pays d'origine, de sa famille d'origine, de sa culture d'origine. Elle vit dans la pauvreté et pourtant, elle se montre dévouée à sa belle-mère. Elle persiste à faire le bien sans s'attendre à être récompensée par Dieu. Parce que ce que l'auteur veut nous faire remarquer, c'est que Ruth n'est pas allée dans le champ de Boaz parce qu'elle savait que c'était le champ de Boaz en espérant le rencontrer, obtenir sa faveur. Non, elle y est allée simplement parce que c'est un champ, elle pouvait glaner. Elle y est allée de façon tout à fait sincère parce qu'elle était dévouée à sa belle-mère, elle était fidèle. Elle persistait à faire le bien malgré tout ce qu'elle avait traversé. Et elle fait cela si bien que sa réputation la précède. Hein. Boaz demande quelques informations, c'est qui cette jeune femme? Les serviteurs, ils disent, c'est telle jeune femme. Et d'ailleurs, tu sais, ils sont impressionnés aussi de voir sa consécration, sa fidélité. Mais ce qui est censé nous étonner, nous, c'est que cette jeune femme, exemplaire en termes de foi et de consécration, eh bien, que c'est une Moabite. Une Moabite, c'est-à-dire, elle est originaire de Moab, un pays païen. Elle n'est pas du tout juive, elle n'est pas du tout israélite à l'origine. Et pourtant, bien qu'elle ne soit pas issue du peuple d'Israël, c'est elle ici, dans ce passage, qui est exemplaire. On avait déjà vu ça, d'une certaine façon, il y a deux semaines, que Ruth était présentée comme un exemple, alors qu'elle n'est pas israélite. Elle est Moabite. Et donc l'auteur est en train de forcer notre admiration devant la façon dont cette jeune femme, qui n'a pas été élevée dans la religion des Israélites, la façon dont cette jeune femme pourtant a complètement intégré les principes de cette religion, qui est fondée sur les promesses de grâce d'un Dieu bienveillant. Et elle a intégré cela. Elle en a été elle-même transformée. Elle est en train de le vivre concrètement. Elle est en train de vivre comme une bonne israélite, comme une bonne croyante en ce Dieu, l'Éternel, qui est rempli de bienveillance. Autrement dit, comme je le disais, la bienveillance de Dieu, vous voyez, est si efficace qu'elle peut conquérir le cœur de n'importe qui, même d'une Moabite, même d'une païenne, qui n'a pas été élevée dans la religion israélite, qui n'a pas été élevée dans l'Alliance. Et donc Ruth, à ce stade du récit, constitue une sorte de témoignage vivant de la bienveillance de Dieu et de l'efficacité de sa bienveillance qui s'exprime dans la vie de Ruth. Ruth s'est convertie au Dieu d'Israël, ça on l'avait vu la dernière fois, et sa vie par conséquent a été complètement transformée sous l'effet de sa bienveillance à Dieu, sous l'effet de sa bienveillance. Si elle s'était convertie à un Dieu cruel, elle serait devenue cruelle. Mais elle s'est convertie à un Dieu bienveillant et elle-même en est transformée à son image. Mais quel témoignage frappant, non? L'auteur veut qu'on se dise là, mais ça alors, et alors si on était juif, si on était israélite à cette époque-là, on se dirait, mais ça alors, moi qui n'étais pas sûr de la bienveillance de Dieu, voilà donc ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un, et en plus dans la vie d'une Moabite. Sa bienveillance est efficace, elle agit concrètement, on peut en voir les fruits. J'aurais jamais imaginé que la bienveillance de Dieu puisse transformer quelqu'un d'une façon si puissante, si efficace. C'était une Moabite et la voilà, exemplaire aux yeux des Israélites. Il y a quelque temps, Hélène, notre Hélène à nous, a conseillé un certain médicament à Suzanne pour la soulager de ses nausées liées à sa grossesse. Et Suzanne avait des raisons d'être sceptique par rapport à l'efficacité de ce médicament, parce que son propre médecin, Suzanne, lui avait fait comprendre qu'il n'existait en fait rien de bien efficace pour combattre les nausées dans le cadre d'une grossesse. Bon. Mais Suzanne, malgré son scepticisme, a bien été obligée d'admirer l'efficacité du médicament chez Hélène. Parce que quand Hélène prend le médicament, ça va mieux que quand elle ne le prend pas. Bah, Suzanne est bien obligée d'admettre et d'admirer l'efficacité du médicament chez Hélène. Et de la même façon, Dieu nous atteste la réalité et l'efficacité de sa bienveillance à travers l'exemple des personnes comme Ruth, que Dieu a complètement transformées. Et vous savez, quand on sait où regarder, on peut voir de nos propres yeux la bienveillance de Dieu efficace dans ces personnes, dans leur vie. On peut voir de nos propres yeux l'efficacité de la bienveillance de Dieu qui s'exprime dans ces vies transformées. Et dans notre propre église, ici même ce soir, il y a des gens comme ça, comme Ruth, au parcours improbable, qui n'ont pas grandi dans un contexte chrétien, mais que Dieu a transformés. Et comment ? Sous l'effet de sa bienveillance. Je pense par exemple à une jeune femme qui était résolument athée, élevée par des parents non-croyants, exactement comme une Moabite, comme Ruth, mais dont la vie a été complètement bouleversée parce qu'elle a trouvé à deux reprises dans le métro des feuilles de calendrier avec des versets bibliques écrits dessus. Et Dieu l'a irrésistiblement attirée à lui. Et aujourd'hui, cette jeune femme est engagée dans la foi, consacrée à Dieu. Et franchement, j'ai jamais vu quelqu'un dévorer des livres de théologie avec une telle délectation. Incroyable ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Incroyable l'efficacité de sa bienveillance, non ? Et on en a des témoignages vivants autour de nous. Et moi qui ai plutôt grandi dans un environnement chrétien, moi je suis impressionné par ce genre de témoignages. Moi qui ai toujours cru en théorie à la bienveillance de Dieu, Dieu est bon. Ben, bien sûr, Dieu est bon. Dieu est bon. C'est dans le dictionnaire. Dieu est bon. Mais en même temps, moi qui suis tenté de douter de son efficacité pratique, de la façon dont la bienveillance de Dieu s'exerce et est efficace d'un point de vue pratique et concret, eh bien, je vois ce que Dieu a fait, je vois ce que Dieu continue de faire dans la vie de personnes comme celles que j'ai citées, et je me rends compte que la bienveillance de Dieu est si efficace qu'elle peut conquérir le cœur de n'importe qui. Peut-être que ce premier point peut nous inciter à apprendre à nous connaître davantage dans le cadre de l'Église, à nous intéresser à la façon dont Dieu s'est montré bienveillant en pratique dans la vie de nos amis chrétiens. Et si vous n'êtes pas chrétien, intéressez-vous à la vie de gens dont vous savez qu'ils sont chrétiens. Et intéressez-vous à la façon dont Dieu s'est montré bienveillant en pratique et de façon parfois spectaculaire, incroyable, inimaginable dans la vie de vos amis chrétiens. Donc si tu veux savoir où regarder aujourd'hui, ce soir, pour voir par toi-même les effets de la bienveillance de Dieu, commence déjà par regarder ces gens que tu connais, qui sont un peu comme Ruth, dont la vie a été complètement transformée par Dieu. Ces gens témoignent par leur vie finalement, parce que Dieu a fait, ils témoignent de l'efficacité de la bienveillance de Dieu. La deuxième chose que l'auteur veut nous faire comprendre, cette fois versets 8 à 16, on est toujours au chapitre 2, on suit le cours du récit, versets 8 à 16 cette fois, la deuxième chose que l'auteur veut nous faire comprendre, c'est que la bienveillance de Dieu est si efficace qu'on peut en faire l'expérience auprès du peuple de Dieu. Elle est si efficace qu'on peut en faire l'expérience auprès du peuple de Dieu. Alors, on découvre là, à partir du verset 8, eh bien, l'incroyable générosité de Boaz. Ou Boaz, à vous de choisir la version que vous préférez. Et donc Boaz dit à Ruth de glaner tranquillement dans son champ. Après qu'il se soit renseigné sur qui elle est, il lui dit, vas-y, c'est bon, t'inquiète pas, viens dans mon champ, quand tu veux, glane tout ce que tu veux, viens boire l'eau que mes serviteurs auront puisée, viens te reposer dans la maison. Elle est même accueillie à table avec les moissonneurs officiels, donc les professionnels. Elle, la pauvre étrangère, elle est accueillie à la même table, verset 14. Boaz donne même des instructions à ses serviteurs pour qu'ils fassent exprès de laisser des épis par terre pour qu'elle ait encore plus à glaner. Incroyable sa générosité, non? D'ailleurs, Ruth est complètement abasourdie par un tel déploiement de gentillesse. Verset 10, elle tombe par terre, il est dit, elle se prosterne, elle est abasourdie. Et elle demande à Boaz la raison de sa générosité. Et que lui répond-il? Eh bien, en substance, il lui répond que lorsqu'on se réfugie sous l'aile de Dieu, on se réfugie en même temps à l'abri de son peuple. Lorsqu'on se réfugie sous l'aile de Dieu, on se réfugie en même temps à l'abri de son peuple. En quelque sorte, Boaz lui dit, Ruth, tu as choisi de te fier au Dieu d'Israël. Ça, on l'a vu il y a deux semaines. Hein. Et par conséquent, parce que tu as choisi de te fier, de placer ta confiance dans le Dieu d'Israël, par conséquent, tu t'es attaché à ta belle-mère Noémie, tu t'es attaché à tout le peuple d'Israël, le peuple de l'Éternel. Tu as voulu effectivement te réfugier auprès de l'Éternel, le vrai Dieu, et pas auprès des dieux moabites. Et moi qui suis quelqu'un d'important en Israël, parce que Boaz c'est quelqu'un d'important, moi qui suis quelqu'un d'important en Israël, je ne fais que relayer par mes actions, je ne fais que relayer par ma générosité la faveur de Dieu envers tout son peuple. Si tu te réfugies sous les ailes de Dieu, tu te réfugies en même temps à l'abri de son peuple. Donc la générosité de Boaz, en quelque sorte, c'est l'expression de la générosité de Dieu, tout simplement. Voilà pourquoi on peut dire que la bienveillance de Dieu est si efficace qu'on peut en faire l'expérience auprès ou au sein du peuple de Dieu. Il y a bien des choses dont vous faites l'expérience, non, quand vous voyagez dans certains pays étrangers. Des choses qui sont propres à la culture de ce pays où vous rendez. Quand on va aux États-Unis, par exemple, Suzanne et moi, les enfants, on est toujours frappés par la gentillesse spontanée des gens dans les magasins, à la station-service. On est frappé par la gentillesse spontanée des gens. C'est une impression générale. Je sais qu'il y a des exceptions, comme Jonah, par exemple. Mais en général, les Américains sont très gentils. Donc, on est frappé par la gentillesse spontanée des gens. Puis, quand on va en Écosse, là, on se rend compte que beaucoup de gens ont le sens de l'hospitalité. C'est aussi une impression générale. Il y a des exceptions, comme moi. Et puis, quand on revient en France, on redécouvre très vite que tout le monde est de mauvaise humeur. Bon, bah, c'est une impression générale, d'accord? Mais ces choses sont peut-être relatives à la culture des différents pays, à leur histoire peut-être. À la culture et à l'histoire des pays et des peuples qui les habitent, ces pays. Il y a certainement plein d'études de sociologie qui sont faites sur ces questions-là. Mais de façon similaire, dans ce texte, la culture du peuple de Dieu, la culture des Israélites est particulière. Parce que cette culture reflète aussi l'histoire du peuple. L'histoire d'un peuple délivré par un Dieu de grâce qui est venu les chercher en Égypte pour les faire sortir et les amener en terre promise. La culture du peuple de Dieu reflète le caractère de Dieu, elle reflète les actes de Dieu. Et donc Boaz l'Israélite est généreux parce que Dieu est généreux. Il est accueillant parce que Dieu est accueillant. Et vous voyez, la bienveillance de Dieu bonifie son peuple, si j'ose dire. Elle bonifie son peuple. Et j'espère que c'est le cas aujourd'hui. Hein. J'espère que Dieu bonifie son Église. De sorte que l'Église manifeste en pratique la bienveillance de Dieu auprès de ceux qui doutent, de ceux qui en doutent. Et donc, cher ami, tes amis chrétiens t'aiment parce que Dieu t'aime. Tes amis chrétiens pensent à toi parce que Dieu pense à toi. Tes amis chrétiens ne vont jamais te laisser tomber parce que Dieu ne va jamais te laisser tomber. Tes amis chrétiens auront toujours du plaisir à être avec toi et à t'écouter parce que Dieu a toujours du plaisir à être avec toi et à t'écouter. Tes amis chrétiens te pardonnent parce que Dieu pardonne. La culture du peuple de Dieu reflète, vous voyez, le caractère et les actes de Dieu. Et honnêtement, est-ce qu'il existe une société humaine qui soit susceptible d'aimer inconditionnellement, qui soit susceptible de faire grâce aux offenseurs ou aux coupables qui soient susceptibles de donner sans rien attendre en retour, à part l'Église de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une autre société humaine qui soit capable de cela, qui soit susceptible de faire ces choses, à part l'Église de Jésus-Christ ? Voyez, c'est pour... Auprès du peuple de Dieu, on peut goûter et voir combien l'Éternel est bon, pour reprendre l'expression du psalmiste, psaume 34, qu'on a lu tout à l'heure. On peut goûter et voir que l'Éternel, combien l'Éternel est bon. Et bien sûr qu'on est facilement amené à douter de la bienveillance de Dieu. Bien sûr qu'on est facilement amené à douter, du moins, de l'efficacité de cette bienveillance, c'est-à-dire du fait que Dieu agisse réellement, concrètement, selon sa bienveillance. Bien sûr qu'on est amené à en douter facilement. Mais voilà, approche-toi de l'Église, parce que la bienveillance de Dieu est si efficace qu'on peut en faire l'expérience vraiment auprès du peuple de Dieu. Et à l'inverse, enfin, c'est un peu le revers de la médaille, si c'est nous l'Église. Nous devons avoir conscience de cette vocation, non ? Comme Boaz en avait conscience. Et nous devons nous repentir sérieusement de nos manquements dans ce domaine particulier. Si nous ne reflétons pas dans la culture de l'Église le caractère et les actes de notre Dieu. Et la troisième et dernière chose que l'auteur veut nous faire comprendre, versets 17 à 23, c'est que la bienveillance de Dieu est si efficace qu'aucune adversité n'est assez grande pour lui faire obstacle. La bienveillance de Dieu est si efficace qu'aucune adversité n'est assez grande pour lui faire obstacle. Donc le texte raconte que Ruth ramène chez Noémie une quantité impressionnante de grains de céréales, de l'orge. Un épha, nous dit le texte, ce qui représente plus de 20 litres. Tiens, belle maman, voilà ce que j'ai ramené aujourd'hui, j'ai glané, et voilà, un énorme bac, 20 litres d'orge. Et en plus, elle lui ramène les restes de son repas de midi, parce que Boaz s'est montré tellement généreux qu'elle était bien repue, elle en a ramené à Noémie. Et quand Noémie apprend ce qui s'est passé, elle, à son tour, est bouleversée aussi. C'est comme si les pièces du puzzle commencent tout à coup à s'assembler. Elle se rend compte de la providence de Dieu qui a fait en sorte que Ruth obtienne la faveur de Boaz en glanant dans son champ, Boaz qui est lui-même un parent par alliance de Noémie et qui a donc un devoir de rachat envers la famille de Noémie. Tout cela conformément aux dispositions, encore une fois, de la loi d'Israël à l'époque qui prévoyait que lorsqu'un homme marié décédait sans avoir eu de descendants, sans avoir eu d'enfants, eh bien son frère ou un autre parent proche devait épouser la veuve dans le but d'assurer au défunt une descendance et donc la pérennité et la transmission de son patrimoine. Et on découvrira plus tard dans le récit la pertinence de cette remarque que fait Noémie sur le devoir de rachat de Boaz. Mais pour l'instant, l'auteur veut surtout attirer notre attention sur le réveil de Noémie. Vous vous souvenez, au premier chapitre, on l'avait laissé un peu aveuglée par son amertume. Elle avait traversé des choses incroyablement difficiles avec la perte de son mari, la perte de ses deux gendres. Et elle était très amère. Elle a décidé elle-même de changer son nom. Ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara. Parce que Mara, ça veut dire amertume. Voilà, c'est ce qui me caractérise. Et elle était aveuglée par son amertume, en dépit pourtant de ce que Dieu avait fait pour elle en lui donnant, vous vous souvenez, Dieu lui donne Ruth comme gage vivant de sa faveur. Mais malgré tout, comme si Ruth n'existait pas, Noémie est quand même amère à la fin du chapitre 1 et elle doute de la bienveillance de Dieu. Mais maintenant qu'elle voit le bac rempli d'orge devant ses 20 litres d'orge, elle constate bien au contraire la bienveillance de Dieu manifestée à travers ces différentes pièces du puzzle qui se rassemblent, à travers Ruth, à travers Boaz, cette bienveillance de Dieu finalement si efficace qu'elle a vraiment changé le cœur de Ruth. Et puis qu'elle s'est exprimée à travers Boaz, représentant en quelque sorte le peuple de Dieu dont la culture est conditionnée par le caractère et les actes de ce Dieu de grâce, de ce Dieu de l'Alliance, de ce Dieu bienveillant. Elle constate ces choses, elle voit les pièces du puzzle qui s'assemblent, et elle proclame solennellement, verset 20, que l'Éternel n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. Alors, Il y a peut-être des petites nuances en fonction de la traduction que vous avez. Mais je pense que celle que je viens de vous lire est la plus fiable, mais je devrais bien sûr aller vérifier ça plus tard dans l'hébreu, tout ça. Mais en tout cas, il semble bien que Noémie proclame que Dieu n'abandonne pas sa bienveillance ni envers les vivants, ni envers les morts, sous-entendu, de son peuple, parmi ceux qui le craignent. Noémie, vous voyez là, au verset 20, elle se réveille de son amertume, elle commence à être consolée parce qu'elle a tiré une leçon de son expérience jusqu'ici. C'est que la bienveillance de Dieu est si efficace qu'aucune adversité n'est assez grande pour lui faire obstacle. Noémie est en train de le voir, d'en prendre conscience. Noémie vient de se rendre compte que Dieu n'a pas abandonné sa bienveillance, ni envers elle et Ruth, les veuves, ni même envers leurs maris, qui sont pourtant morts. Elle s'en rend compte parce qu'elle commence à voir maintenant la providence de Dieu dans tout ce qui s'est passé. Malgré la misère, Dieu donne à manger en abondance. Malgré la mort des maris, sans descendance, Dieu donne un rédempteur. Il donne un homme qui a un devoir de rachat. C'est incroyable, même les morts dans ce texte continuent de faire l'objet de la bienveillance de Dieu. Alors je suppose qu'un certain nombre d'entre vous, vous avez souscrit, vous avez déjà souscrit dans votre vie, une assurance vie. Ou peut-être pas, vous êtes tous assez jeunes finalement, contrairement à moi. Donc moi j'ai souscrit une assurance vie, ce qui signifie, d'après les termes de mon contrat, qu'en cas de décès accidentel ou prématuré, eh bien Suzanne, ma conjointe, recevra, en vertu des termes de cette assurance, une certaine somme d'argent. Alors on appelle ça une assurance vie, en réalité on devrait appeler ça une assurance décès. Mais que fait cette assurance pour moi une fois que je suis mort? Ben rien du tout. Une fois mort, l'assurance ne peut rien faire pour moi. Hein. C'est pourtant moi qui suis assuré, c'est moi qui ai souscrit l'assurance, mais l'assurance bénéficie en réalité à Suzanne. Elle ne me bénéficie pas à moi. Qu'est-ce qu'elle fait pour moi? Moi, je suis rayé de la liste. Hein. J'ai plus de numéro de... Oui, enfin voilà. J'allais dire numéro de client. Une fois mort, vous n'existez plus pour votre compagnie d'assurance. Désolé de vous le dire, hein, peut-être que... Mais voilà, hein, ça c'est la réalité. Et vous savez, c'est pas du tout comme ça avec le devoir de rachat prévu par Dieu dans sa loi. C'est étonnant. Parce que ce devoir de rachat, c'est quand même un genre d'assurance décès. C'est quelque chose qui se met en place en cas de décès. Mais en cas de décès, si vous êtes un homme en Israël à cette époque-là et que vous êtes marié, en cas de décès... Vous continuez d'être important pour Dieu. Parce qu'il se charge de vous donner quand même une descendance à travers votre veuve, comme si vous étiez là. Il continue de faire des choses pour vous. Dieu se charge de pérenniser votre lignée, d'assurer la continuité, la protection et la transmission de votre patrimoine, c'est-à-dire de l'héritage de votre vie. Vous continuez d'être important pour Dieu malgré votre mort. Vous n'êtes pas rayé de la liste. Bien au contraire. Ça alors. Et Noémie se rend compte de ça quand elle voit ce que Dieu est en train de faire. Ce que Dieu est en train de faire souverainement dans sa vie, à travers sa belle-fille Ruth et Boaz, ce parent de sa famille. Le fait que Dieu n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts, Noémie pouvait le savoir déjà. Si elle lisait un petit peu sa Bible, bon, je caricature parce que la Bible n'existait pas, mais si elle était un peu au courant de la loi que Dieu avait donnée à son peuple. Mais son amertume à Noémie, elle avait aveuglé. Elle ne voyait pas vraiment plus loin que ses problèmes, et on la comprend. Mais tout d'un coup, la manifestation de la bienveillance de Dieu est mise sous ses yeux. Elle ne peut plus l'éviter, elle ne peut plus ne pas la voir. Et de la même façon, nous aussi aujourd'hui, nous pouvons facilement être aveuglés, n'est-ce pas, par nos difficultés. On peut facilement être aveuglé par les épreuves qu'on traverse, ou par l'amertume qui ronge notre cœur, qui nous tourmente, et souvent qui est dirigée contre Dieu. Mais quelle est la vérité pourtant? Quelle est la vérité? C'est que Dieu nous offre, ou nous présente, une assurance vie si complète qu'elle nous assure contre la mort, et en dépit de la mort. Dieu nous a donné une Ruth qui, par son obéissance, a gagné la faveur d'un Boaz qui nous rachète à son tour de la puissance du mal et de la mort. la Ruth de Noémie, c'est le Jésus des chrétiens, qui a été dépouillé de tout, lui aussi, qui s'est humilié, mais qui s'est montré obéissant. Obéissant quand même. Et il est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et cela jusqu'à la croix, où il s'est offert en sacrifice agréable à Dieu, et où il a acquis pour nous la faveur inconditionnelle du Père, Dieu le Père. Donc l'assurance vie que Dieu nous présente, c'est vraiment une assurance vie éternelle. Ni le péché, ni la mort. Et est-ce qu'on peut imaginer pire ennemi que la mort ? Le diable peut-être ? Ben, même le diable ne peut pas faire obstacle à la bienveillance de Dieu, tellement sa bienveillance est efficace pour ceux qui lui font confiance. C'est une assurance vie éternelle. Il n'y a pas d'obstacle assez grand, il n'y a pas d'adversité assez grande pour faire obstacle à la bienveillance de Dieu. La bienveillance de Dieu est si efficace qu'aucune adversité n'est assez grande pour lui faire obstacle. Et donc, en envoyant Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous, Dieu a manifesté sa bienveillance, vous voyez, de façon suprême. Sa bienveillance envers les croyants. Mon ami, si tu doutes ce soir de la bienveillance de Dieu, si tu doutes de l'efficacité de sa bienveillance envers les croyants, alors je t'ai invité à regarder d'autres croyants, voir comment la bienveillance de Dieu s'exprimait dans leur vie. Je t'ai invité à t'approcher de l'Église, mais maintenant, regarde Jésus. Regarde la croix ensanglantée. Regarde les souffrances du Fils. Regarde son obéissance parfaite qui t'est imputée à toi. Regarde le tombeau vide. Regarde l'assurance vie éternelle qui t'est offerte. Regarde le pain et la coupe. Et mange-en, et bois-en, et goûte et vois combien Dieu est bon. Alors pour conclure rapidement. On a dit tout à l'heure, il y a toutes sortes de raisons, hein, pour lesquelles on peut être amené à douter de la bienveillance de Dieu, ou du moins de l'efficacité de sa bienveillance, c'est-à-dire du fait que Dieu est, s'il est bienveillant en théorie, on peut douter du fait que Dieu agisse réellement selon cette bienveillance théorique. Mais ce passage nous a rappelé trois choses, hein, successivement. D'abord que la bienveillance de Dieu est en réalité si efficace, premièrement, qu'elle peut conquérir le cœur de n'importe qui, deuxièmement, qu'on peut en faire l'expérience auprès du peuple de Dieu, et troisièmement, qu'aucune adversité n'est assez grande pour lui faire obstacle. Et donc Dieu te dit aujourd'hui, il te dit ce soir, si tu regardes au bon endroit, tu pourras constater par toi-même les effets suprêmes de ma bienveillance. Si tu en doutes, approche-toi, les yeux grands ouverts de tes amis chrétiens qui sont autant de témoignages vivants de l'efficacité de la bienveillance de Dieu. Approche-toi, les yeux grands ouverts de l'Église, du peuple de Jésus qui diffuse le parfum de sa bienveillance. Approche-toi, les yeux grands ouverts de Jésus lui-même. Va à sa rencontre par la Bible, par la prière, le culte, la Sainte Cène, et tu auras en lui, en Jésus cette fois, la preuve vivante, morte et ressuscitée, mais la preuve vivante que la bienveillance de Dieu n'est pas seulement théorique. Elle n'est pas seulement inscrite dans le dictionnaire, mais elle est aussi inscrite dans l'histoire, dans notre monde. Combien précieuse est ta bienveillance, ô Dieu, dit le psalmiste. À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bienveillance sur ceux qui te connaissent. Amen.